Bonjour à vous, merci d'être là parmi nous pour une heure et demie à se pencher sur ce thème à la fois ancien et actuel des couples mixtes. On a ici deux chercheuses, deux universitaires spécialistes de la question et qui vont évoquer ce que sont les couples mixtes dans deux univers culturels un peu différents, à la fois en France et aux États-Unis. On va parler histoire, on va parler actualité aussi. On va d'abord, selon le principe de ces conférences, écouter deux exposés, puis je poserai quelques questions et ensuite la parole sera à vous pour compléter tout ce que nous aurons oublié de dire. Alors je vous présente nos deux invités, donc Sylvie Laurent, historienne, américaniste, maître de conférences à Sciences Po Paris, chercheuse associée à Harvard et également intervenante régulière à La Grande Table, l'émission de France Culture et l'émission d'Arte 28 minutes. Et Gabriel Varro, qui avait enseigné le français longtemps à l'Institut des professeurs de France à l'étranger, qui est ensuite entré au CNRS, qui aujourd'hui dirigeait des recherches à l'Université de Versailles et qui est rédactrice en chef de cette revue Éducation et Société plurilingue, qui s'intéresse, comme son titre l'indique fort bien, à la langue et aux sociétés qui les sous-tendent. On va d'abord, on n'a pas tiré au sort, ce sont elles qui ont choisi, on va d'abord écouter Sylvie Laurent, qui va nous parler donc de ses amours métis aux États-Unis. Merci.
Merci. Bonsoir. Pour parler de la question des amours métis et de la question interraciale aux États-Unis, je voudrais commencer par une petite anecdote. Il y a certains historiens qui disent, en parlant des États-Unis pendant la plus grande partie de son histoire, que l'amour interracial était à ce point intolérable aux Américains que le simple fait d'aller voir Othello au théâtre leur était pénible. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que cette pièce de théâtre a connu une histoire contrariée aux États-Unis parce que, justement, il s'agissait de l'amour entre deux personnes dites de races différentes. L'histoire de l'amour, parce que c'est là-dessus dont je voudrais vraiment insister, au-delà de la question des unions ou du mariage, entre deux personnes de différentes races, est un peu biaisée lorsqu'on s'intéresse aux États-Unis, parce qu'on part de deux mythes, de deux grands malentendus que je voudrais lever d'emblée. Le premier mythe, qui est enraciné dans l'image que les États-Unis donnent d'eux-mêmes au reste du monde, c'est l'idée qu'il s'agit d'un peuple métis, que fondamentalement les États-Unis sont une hybridation, un mélange. Et cette idée remonte au XVIIIe siècle, lorsque l'un des premiers écrivains américains, qui était en fait un fermier du nom d'Hector St. John de Crèvecœur, a écrit un texte qui s'appelait « Qu'est-ce qu'un Américain ?». On est au XVIIIe siècle, il est, comme son nom l'indique, d'origine française, et il répond fondamentalement « L'Américain est un métis ». L'Américain est cette espèce d'être très étrange qui, arrivé sur une terre nouvelle, venu des quatre coins de l'Europe, a rencontré l'Indien et qui a réussi à créer cette race nouvelle qui serait la race américaine. Et depuis, on a beaucoup cette idée selon laquelle les États-Unis sont le pays du métissage. On parle aujourd'hui du brunissement, du browning de l'Amérique, qui serait tous un petit peu métisse. Alors ça, c'est le premier mythe. Pourquoi est-ce que c'est un mythe ? Parce que s'il est vrai que les États-Unis ont connu un mélange, une hybridation, une mixité entre différentes populations venues d'Europe, voire avec une partie de la population hispanique, voire avec une partie de la population asiatique, il y a un point irréductible qui revient à la définition fondamentale et primitive de ce qu'est la race. Il me semblait utile de rappeler tout de suite qu'il y a d'abord eu le racisme et après seulement il y a eu la race. C'est parce qu'il y avait le racisme qu'il a été nécessaire d'inventer cette fiction sociologique très utile permettant de justifier pourquoi les personnes de couleur étaient celles dans les Amériques qui étaient asservies. Alors comment est-ce qu'on fait pour justifier ça ? D'abord, on va chercher dans la Bible. On dit que la Bible a voulu que les hommes de couleur soient soumis à la volonté du blanc. Et puis ensuite, on se modernise, le progrès, on entre dans l'ère moderne. Et donc, la Bible ne suffit plus. Et donc, on va chercher la science. Et c'est la science qui, au XIXe siècle, apporte ces arguments soi-disant imparables, selon lesquels, eh bien, finalement, oui, il existe quelque chose qui s'appellerait une espèce d'héritage, de traits et une justification de l'asservissement de certains au profit d'autres. Et c'est comme ça que, petit à petit, on en vient à comprendre que lorsqu'on parle de race, fondamentalement aux États-Unis, on ne parle pas des races, on parle des blancs et des noirs. C'est pour eux, c'est pour distinguer les noirs du reste du corps social qu'on a inventé le mot race, en tout cas dans les Amériques. Aujourd'hui, on peut parler de race hispanique, encore que les hispaniques peuvent être blancs ou noirs. On peut parler de race indienne, de race asiatique, et ça, en réalité, tout le monde comprend bien quand on parle de race aux États-Unis qu'on parle de la question blanche et de la question noire. Et cette question, elle remonte à l'origine même des États-Unis et à la question de qui a le droit d'aimer qui. C'est dès la fin du XVIIe siècle que, dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord, pour la première fois, sont passées des lois qui rendent illégales les unions entre les blancs et les noirs. Pour la première fois, 1791, dans le Maryland et puis ensuite en Virginie, il est dit que tout prêtre, tout pasteur qui accepterait de célébrer de telles unions serait puni. Il est dit que toute femme blanche qui accepterait de se marier avec un homme de couleur serait elle-même considérée comme une esclave, puisque tout noir est naturellement un esclave. C'est par la loi encore que l'on dit que tout enfant né d'une union entre blanc et noir serait automatiquement un esclave. Donc le premier mythe consiste à appliquer la prohibition des amours interraciales à toutes les races. En réalité, il s'agit que d'interdire de façon viscérale, c'est un tabou anthropologique, l'union entre les blancs et les noirs. Et j'en viens à mon deuxième malentendu, à mon deuxième mythe. L'idée selon laquelle l'union entre blancs et noirs était à ce point intolérable dans l'Amérique coloniale et dans l'Amérique moderne que jamais une telle chose ne s'est produite. Alors là, c'est le deuxième mythe qui est un tout petit peu problématique. Parce qu'il fait fi de la réalité des viols de masse commis par les maîtres blancs sur leurs esclaves noirs. Des milliers et des milliers de femmes noires aux États-Unis ont donné naissance à des enfants métis parce qu'elles ont été violées par les hommes qui avaient le pouvoir de les posséder et par conséquent de posséder les enfants. Et vous savez bien sûr qu'y compris jusqu'au père fondateur, au rédacteur de la Déclaration d'indépendance comme Thomas Jefferson, il y a eu chez les Jefferson une lignée d'enfants noirs avec pour mère, Sally Hemings, l'esclave, l'une des nombreuses esclaves de Jefferson, qu'il n'a évidemment jamais véritablement reconnue. Donc il y a deux mythes qui visent à masquer le fait que le métissage, entendu comme mélange entre blancs et noirs, a été imposé de force à ce pays. On a donc bien affaire à un pays métissé, si l'on entend le métissage, comme le disait, je crois, Césaire, la présence de couples dominos, c'est-à-dire entre blancs et noirs, mais en même temps, c'est l'objet d'un très grand interdit, d'un très grand déni. Ce qui est interdit, ça n'est donc pas qu'un homme blanc viole une femme noire. Ce qui est interdit, ce qui est insupportable et ce qui est intolérable, c'est qu'un homme noir épouse une femme blanche. Et comme toujours, le racisme n'est pas le fait de réactions spontanées. Le racisme, ce sont les institutions qui le créent. Et les institutions, c'est avant tout la loi. Et depuis le XVIIe siècle aux États-Unis, un certain nombre de lois ont été passées interdisant formellement à un noir d'épouser une blanche. Plus encore, interdiction absolue à un noir d'aimer une blanche. Alors on peut penser que finalement, dans une grande partie du monde, ça a été le cas. Et bien, si on regarde très attentivement, par exemple, dans l'Amérique espagnole coloniale, au Brésil, par exemple, autre société métissée avec une histoire différente, les mariages entre blancs et noirs étaient interdits. Mais pas du tout l'amour entre blancs et noirs. Le concubinage entre blancs et noirs était toléré. Au Mexique, de la même façon. Dans l'Empire colonial français, c'est l'inverse. On ne pouvait pas avoir de relation adultérine avec une personne de couleur. Mais si on se mariait et qu'on faisait de la femme noire une femme, comment dit-on, de bonne réputation, alors c'était toléré. Dans le droit colonial britannique, il n'était dit nulle part que les unions entre noirs et blancs étaient interdites. Alors on réfléchit. Alors il y a deux exemples qui viennent à l'esprit de cette espèce de phobie viscérale de l'union entre ceux qui se pensent blancs et les autres. Première chose à laquelle on pense, c'est à l'Allemagne nazie et par extension au régime de Vichy. Et là encore, il a bien fallu définir qui appartenait à l'autre race. Et par exemple, pendant le régime de Vichy, pour définir qui était non-arien, qui était susceptible de polluer l'intégrité de la race dominante, il a été défini que si un seul des quatre grands-parents appartenait à l'identité, la race, pour parler en termes nazis juifs, alors on pouvait être défini comme tel. Aux États-Unis, de la même façon, il a bien fallu définir qui était blanc, qui était noir. Comment savoir qui est noir ? L'idiot dira, ça se voit la couleur de sa peau. Non, parce que si c'était aussi simple que la couleur de sa peau, on ne se poserait pas la question du métissage. Si seulement votre arrière-arrière-grand-père est noir, vous ne ressemblez plus du tout à un noir. Et pourtant, selon la loi, vous l'êtes encore. Donc il a fallu que les tribunaux définissent qui était noir. Et on a comme ça, tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, des tribunaux et des procès où, par exemple, un homme peut vouloir répudier sa femme en disant « Je l'ai épousée, je ne savais pas laquelle était noire. Je veux aujourd'hui me séparer d'elle parce que j'ai les éléments me permettant de penser qu'elle a quelque part dans son lignage une personne de couleur. Elle est par conséquent noire. Par conséquent, je suis indigne de l'épouser, etc., etc. » Et il est revenu donc aux tribunaux de définir qui était noir. Et c'est là qu'on est arrivé à quelque chose de littéralement unique, et c'est là que réside l'exceptionnalisme américain, qui a été, à partir du cas de l'État de Virginie, de considérer que toute goutte de sang noir, c'est-à-dire s'il est prouvé que, y compris une seule personne remontant aussi loin que l'on peut remonter, était noir, alors vous êtes noir. Une goutte de sang noir fait de vous un noir. Cette folie génétique, culturelle, anthropologique n'a pas été le fait de un ou deux États archaïques dans le vieux Sud. Cette folie s'est appliquée à 40 des 50 États américains. Dans 40 des 50 États américains, on a eu des lois à un moment pour interdire le mariage interracial. Et je parle y compris d'États aujourd'hui jugés très progressistes comme la Californie ou le Massachusetts. On pourrait penser que, oui, mais enfin c'était le cas au XVIIe siècle, lorsque les gens vivaient encore dans des temps obscurs. Vous serez surpris sans doute de savoir que non seulement ce bannissement, cette interdiction de l'amour entre blancs et noirs a résisté à la guerre d'indépendance, a résisté à la guerre de sécession, a résisté à la Première Guerre mondiale, a résisté à la création de la Société des Nations, a résisté à la Seconde Guerre mondiale et a résisté aux premières années des Nations Unies. Alors on se dit, oui, c'était terrible aux États-Unis, mais quand même, par rapport à l'Afrique du Sud, c'est quand même mieux. Eh bien, là aussi, je vais peut-être vous surprendre, mais l'Afrique du Sud a pris modèle sur les États-Unis. Ce n'est qu'en 1949 que l'Afrique du Sud passe une loi qui s'appelle de façon très intéressante la loi sur la moralité, interdisant les mariages entre blancs et noirs. Et cette loi n'est appliquée en Afrique du Sud, dans la stricte période d'apartheid, de 1949 à 1985. Autrement dit, moins de 50 ans. Aux États-Unis, ça a duré 2 siècles. Aux États-Unis, c'était à ce point que, y compris la représentation dans l'espace public, et vous en avez une image sur ma première illustration, toute représentation de l'amour interracial autre que visant à dénoncer de ce mot très particulier que les Américains ont inventé, qui s'appelle « miscegenation », peut-être que vous arrivez à le lire en haut de la première illustration, qui est une espèce de création entre deux mots de racine latine, « miscere », le mélange, et genus, l'espèce humaine, pour donner un mot qui serait quelque part entre la mésalliance et l'abâtardissement. C'est un mot qui vise à dire qu'on abîme la race en se mélangeant. Tant que ce n'étaient pas ces images-là qui prévalaient, leur représentation était impossible. Si bien, par exemple, qu'en 1934, à Hollywood, la maison de production Motion Picture fait passer un contrat aux différents producteurs de films pour leur dire que pour préserver l'intégrité du mariage et l'image de la famille, il ne fallait certainement pas avoir des couples mixtes à l'écran. Et tout ça continue. Ça résiste au mouvement des droits civiques. Si bien qu'en 1959, la philosophe Hannah Arendt, qui, comme vous le savez, juive, a quitté l'Allemagne, en connaît long sur le bannissement de l'amour entre ce que sont supposément les races, écrit un article aux États-Unis pour dire « mais c'est quand même incroyable, on fait des progrès sur le droit de vote, on fait des progrès sur la fin de la ségrégation, mais personne ne dit rien sur l'amour interracial ». Lorsqu'elle dit ça dans un journal conservateur aux États-Unis, on interdit la publication de son article. En 1961, lorsqu'une femme du nom de Miss Dunham, blanche du Texas, rencontre un étudiant kényan du nom de Barack Hussein Obama Sr., et qu'elle est amoureuse et qu'elle met au monde un enfant, elle est dans une situation d'illégalité qui pourrait la jeter en prison dans encore 17 des 50 États américains. Et tout ça continue jusqu'en 1967. En 1967, c'est l'objet de ma seconde illustration, il y a un couple qui s'aime en Virginie. Et alors, ce qui est formidable pour l'historien, c'est que parfois, et en plus je suis avec une linguiste, donc je trouve cette situation extraordinaire, ce couple a pour nom de famille Loving. C'est tellement beau que ça pourrait être inventé. Et donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un couple d'adolescents. Lui est fils d'ouvrier en Virginie. Il est blanc. Elle habite à quelques pâtés de maison. C'est une jeune fille discrète, noire. Ils s'aiment. Ils se marient. Ils se marient pas, pardon. D'abord, ils se fréquentent. Ils ont 18 ans. Et puis, comme ils s'aiment éperdument, ils veulent se marier. C'est évidemment interdit dans l'État de Virginie. Donc ils se disent qu'à cela ne tienne, nous allons aller dans un état où c'est permis. Ils vont donc dans l'état de Washington, ils se marient et ils reviennent. Et puis au bout de quelques jours, au beau milieu de la nuit, on tambourine à la porte. Il est minuit passé et c'est la police. C'est la police qui vient les arrêter pour le crime qu'ils ont commis, qui est de s'aimer, de vivre ensemble et de s'être mariés dans l'état de Virginie où c'est illégal. Et on leur propose la chose suivante. Soit vous acceptez de quitter l'État pendant au minimum 25 ans, soit vous restez et vous êtes jetés en prison. Évidemment, ils partent. Ils vont s'installer dans l'État de Washington. Mais parce qu'on est en 1967, que le mouvement des droits civiques a déjà fait son œuvre, ils se disent que quand même il y a peut-être quelque chose à faire. Et cette femme formidable a l'idée incroyable, elle s'appelle Mildred Loving, d'écrire au ministre de la Justice à l'époque, qui s'appelle Robert Kennedy, et de lui dire « cette situation n'est pas tolérable, on a fait tellement de progrès, on a voté, c'est après Selma, c'est après le passage de la déségrégation, des droits civiques, et pourtant on n'a toujours pas le droit de s'aimer. » Et Kennedy, prudent, lui dit « écoutez, je vais vous donner l'adresse d'un avocat qui peut-être pourra faire quelque chose pour vous, il travaille pour cette association, il m'a appelé ACLU, l'Association des droits civiques, il peut peut-être vous aider. » D'ailleurs, de façon incidente, c'est intéressant, c'est un avocat juif, et comme souvent, les avocats juifs auront fait beaucoup pour la cause noire aux États-Unis. Et l'avocat accepte de prendre en charge leur affaire. Et il faut attendre 1967, soit 10 ans après le mariage du couple Lovings, pour que la Cour suprême reconnaisse que peut-être, après tout, il y avait quelque chose d'inconstitutionnel dans le fait d'interdire à un homme et à une femme de s'aimer parce que c'était pour des questions raciales. Et la Cour suprême a repris l'argument du juge qui avait interdit leur mariage en première instance. Ce juge, qui s'appelle Basile, avait dit « Si Dieu a créé les races et les a mis sur différents continents, c'est donc bien qu'il ne souhaitait pas qu'elles se mélangent. » Il reprend l'argument. Il reprend la Constitution des États-Unis, il reprend en particulier le 14e amendement, et il parvient à cette conclusion, 1967 à l'échelle de l'histoire, c'était hier, et il parvient à la conclusion que, eh bien peut-être en effet, il n'y a rien dans la Constitution des États-Unis d'Amérique qui interdise à un homme et à une femme de s'aimer en raison de leur couleur. Le couple Lovings a donc laissé son nom à une loi qui a fait jurisprudence de façon extraordinaire. Et j'en terminerai en disant que il reste beaucoup à faire, sans doute en parlera-t-on sur la question des amours interraciales aujourd'hui, mais de façon intéressante, lorsqu'il y a très peu de temps, la Cour suprême a reconnu le mariage homosexuel aux États-Unis, on l'appelle mariage pour tous en France, mais c'est gay marriage aux États-Unis. La Cour suprême a repris l'arrêt Lovings versus Virginia en reprenant un petit peu la même argumentation qui était de dire « Nulle part dans la Constitution, il n'est donné au Congrès et au pouvoir politique le pouvoir d'interdire aux gens de s'aimer en raison de leur appartenance. » Donc là, en l'occurrence, ce n'est plus la question raciale, c'est la question, la question du sexe, du genre. Et donc, il y a eu un précédent qui est aujourd'hui utilisé et qui a permis à profit aux couples homosexuels d'être reconnus comme libres de s'aimer et donc libres de se marier. Et c'est aussi grâce au dépassement du tabou interracial qu'on est parvenu à la reconnaissance du droit aux gens de s'aimer, même si l'ensemble de la société pensait que c'était intolérable. Voilà, je vous remercie.
Merci. Madame Varro, on va se rapprocher géographiquement avec vous et évoquer la situation en France, donc qui est comparable avec celle des États-Unis ou pas du tout?
Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses que l'on peut rapprocher de ce que Sylvie nous a raconté. Je voudrais juste aussi vous raconter une petite anecdote, je ne sais pas si elle est véridique, mais à propos de Robert Kennedy, qui était justement le procureur de la République en Amérique, qui a donc été consulté par le couple Loving, où il avait 7 ou 8 enfants, et on dit, comment se fait-il que Robert Kennedy a 7 ou 8 enfants et aucun n'est noir? Ça fait partie de l'humour américain sur ce sujet. Alors, c'est très intéressant. J'ai moi-même consulté une fois, par exemple, les statistiques américaines sur l'identité. Et ça remonte, c'était le recensement de la population en 1790. En 1790, il y avait trois catégories dans le recensement américain. Il y avait hommes blancs, femmes blanches et esclaves. C'était en 1790. Et ensuite, les catégories se sont multipliées, mais la catégorie de couleur est toujours restée dans le recensement. Et la catégorie de couleur y est toujours dans le recensement, puisqu'on demande toujours de se définir. C'est pas autrui qui vous définit, mais enfin, vous êtes appelé à vous définir vous-même, à vous inscrire dans une race, dans une catégorie, alors blanc, noir, indien, etc., etc., hispanique noir, hispanique blanc, enfin, comme Sylvie l'a dit. Et c'est seulement depuis l'année 2000 que le recensement américain inclut une case multiraciale. Donc il y a un début, disons, de reconnaissance de cette rencontre interraciale ou intercommunautaire qui est tout à fait révolutionnaire pour les États-Unis. Alors en France, on a l'impression que c'est vraiment la Lune, enfin que c'est tout à fait un autre monde. Mais c'est pour aussi une question, par exemple, de recensement. C'est-à-dire qu'à la même époque, en Amérique, c'était donc en 1790 qu'il y avait ce premier recensement de la population. En France, on peut dire que la définition de la population remonte contemporaine, enfin d'aujourd'hui, remonte à la Révolution française, donc 1789, une année près. Et dans la définition française de la population, il n'y avait que deux catégories. Il y avait français et étrangers. Donc vous voyez qu'il y a tout de suite une différence radicale entre les deux situations, puisque en France, il n'y a jamais eu de reconnaissance de la population autre que par la nationalité, jusqu'à maintenant, jusqu'à très récemment, où on a introduit dans les institutions de statistiques comme l'INSEE et l'INED, ils ont introduit la catégorie immigrée. Et donc, immigré, c'est maintenant une nouvelle catégorie qui change quand même le rapport. Parce que si on peut dire qu'entre Français et étrangers, il y a une différence, mais une différence qui pourrait être d'égalité, puisque on est Français ou on est étranger, mais si on est étranger, on est autre chose. Donc, la relation est une relation équipolante, enfin, d'égalité, tandis que quand on dit français immigré, on voit tout de suite qu'il y a une relation de dominant-dominé. Donc, ce n'est pas du tout la même catégorisation. Alors, je voulais justement dire qu'au début, quand on m'a proposé cette conférence, et le premier titre, c'était « Les amours métisses en France et aux États-Unis ». Et j'ai dit, bon, mais les amours métisses, pour moi, en France, ça ne signifie pas grand-chose. Enfin, disons, c'est une métaphore, mais en fait, ce qui existe en France, c'est plutôt le mariage mixte. Ça, c'est une catégorie solide, c'est une catégorie aussi très compliquée, et c'est une catégorie qui reflète une réalité, une dure réalité, tandis que les amours métisses, c'est assez poétique, c'est joli, mais je ne sais pas si on peut l'utiliser tellement, parce que ça rend un peu léger, disons, un sujet grave. Alors, comme Sylvie l'a dit aussi, le terme de métisse comme le terme de mixité remonte à la racine latine, la même racine qui a été à la base des deux mots, mais il y a une différence dans l'usage. C'est-à-dire que quand il y a eu le premier terme qui était métisse, et pas l'adjectif, mais le métisse, ça a été tout de suite une identification négative, c'est-à-dire un bâtard, un être mélangé, et le mélange était contraire à l'idée de pureté qui était toujours valorisée. Et donc, mixte, le terme mixte a servi aussi à définir les couples interdits. Je reprends l'exemple que Sylvie a donné sur la période nazie, et je suis tout à fait d'accord qu'en fait, le racisme existe d'abord, et pour justifier le racisme, on crée les races. Et donc, par exemple, à l'époque du nazisme, les couples judéo-chrétiens, il a fallu, pour les interdire, créer la race juive, et c'est ce qu'ils ont fait pour justifier l'interdiction. Donc, il y a toute une partie de classification française, coloniale et esclavagiste qui se retrouve dans ces termes. Et je voudrais juste rappeler qu'en France, pourtant, enfin, malgré le fait qu'il y avait, enfin, disons en France métropolitaine, il y avait cette distinction entre Français et étrangers, et il n'y avait pas d'autres qualités qui étaient prises en compte, il y avait dans la France coloniale le Code noir qui remonte au XVIIe siècle, qui a été promulgué dans les Antilles françaises et en Guyane, et qui détaillait le statut des esclaves et qui interdisait aux Blancs de contracter le mariage avec les Noirs. Là, également, il y a une question de durée, c'est-à-dire que l'abolition de l'esclavage en 1848 n'a pas supprimé la différence entre les métropolitains qui possédaient des droits civils et politiques et les autochtones qui n'en possédaient pas. l'Empire colonial français a maintenu les deux catégories, c'est-à-dire les citoyens, les nationaux citoyens et les nationaux sujets, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1946. Et on peut dire que et ça a duré plus longtemps parce qu'il y avait un double collège électoral avec nationaux citoyens d'un côté et nationaux sujets de l'autre, jusqu'en 1956. Donc, on a aussi une histoire de racisme, enfin de racialisation en France également. Néanmoins, même si l'appartenance raciale a donc été un critère officiel en France aussi, il y a cette, un refus, disons, qui est basé sur une fois que la science a démontré que les races ne sont pas une catégorie fondée, puisque tous les groupes sanguins, par exemple, traversent tous les groupes à travers le monde. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des races différentes, puisque la race était fondée essentiellement sur le sang. Et si le sang est le même, si les groupes sanguins sont les mêmes, il n'y a pas de race. Mais ça, c'était un point de vue qui a été maintenu dans la recherche essentiellement pendant très longtemps, depuis les années 70, où un grand professeur du Collège de France, Jacques Ruffier, a écrit d'une façon définitive les races dans l'espèce humaine, les races n'existent pas. Donc, on s'y est tenu. Et il y a eu une grande résistance que vous connaissez peut-être, parce qu'encore aujourd'hui, il y a un grand débat. Est-ce que l'INSEE et l'INED doivent, par exemple, inclure dans leur catégorisation des catégories, des classifications ethniques ou même enfin, qui sont autres que simplement la nationalité, qui était l'unique critère de différenciation et qu'il est encore officiellement, véritablement, en France, l'unique critère de différenciation. Aujourd'hui, nous sommes à une sorte de croisement, de point de rencontre entre un passé et un présent qui fait que la mixité n'est plus la même. Il y a 50 ans, elle se définissait ainsi statistiquement par la nationalité. Et aujourd'hui, il y a une grande tension qui fait que, par exemple, il y a beaucoup de jeunes chercheurs et de discussions qui ramènent les critères, les qualités autres que nationalitaires sur le devant de la scène. Et on reparle des origines, des races, des couleurs, etc. Alors, moi, personnellement, j'essaie toujours de résister à cela, mais je dois avouer qu'il y a un changement de perspective radical dans la société française et qu'il n'y a plus cette espèce de croyance dans le modèle républicain où la citoyenneté recouvrait toutes les différences individuelles. Il y a eu, dans les années 70, un combat enfin, pour que les immigrés puissent être reconnus dans leurs différences. Ensuite, c'est devenu une demande de droit à l'indifférence. C'était surtout l'appel de Michel Rocard, le droit à l'indifférence, que tout le monde soit reconnu comme citoyen ou comme français, mais qu'on ne tienne pas compte des autres caractéristiques. Alors, certainement, il faut toujours rappeler que le contexte est extrêmement important dans tous les cas, et il faut toujours se souvenir ou d'apprendre qu'il y avait d'autres temps, d'autres contextes, même en France, où l'identité personnelle et les origines avaient moins d'importance. Non, parce qu'elle n'existait pas, mais parce qu'elle n'occupait pas le devant de la scène. Il y avait d'autres choses qui primaient. Donc, oui, il faut se rappeler cette relativité au temps et à l'espace de la mixité comme de l'identité. Alors, il y a des chercheurs qui ont étudié, par exemple, les couples formés par les descendants d'immigrés, qui, même quand les deux sont français de nationalité, maintenant, par naissance ou par naturalisation, l'impact des origines familiales est toujours ressenti, et surtout dans les contextes où les facteurs d'exclusion interviennent. Donc, il faut vraiment se rendre compte qu'aujourd'hui, la situation a changé et il y a une recrudescence identitaire qui fait qu'il y a beaucoup de demandes de reconnaissance d'identité qui, avant, était derrière la citoyenneté et dans le domaine privé. Alors, je voulais quand même parler des amours mixtes, un peu, peut-être en disant plutôt la mixité conjugale, puisque j'ai moi-même commencé à étudier la situation des couples qui ont été appelés mixtes après. Quand j'ai étudié la situation des femmes américaines qui étaient venues en France et qui ont épousé des Français. Alors vous voyez que le premier couple, je vous parle des années 70, et le livre a été publié en 84, donc il s'agissait d'un couple franco-américain. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui que c'est un couple mixte ? Oui, c'est un couple mixte nationalement. Ce n'est peut-être pas un couple mixte du point de vue de l'expérience de la mixité lorsqu'il s'agit des vexations de la législation française qui, de plus en plus, intervient dans ce domaine privé et oblige les couples à prouver qu'ils sont de vrais couples avant de les autoriser à se marier. Donc, la recherche a montré que les enfants de ces couples mixtes, de ces couples franco-américains, en fait, pouvaient symboliser leur union et à travers le bilinguisme, puisque dans ce groupe de femmes américaines mariées avec des Français, le bilinguisme des enfants était érigé en objectif extrêmement important pour le couple. Et c'était la langue de la mère, de la femme américaine, qui devait être transmise au même titre que le français, et pour démontrer que son identité aussi a été transmise et qu'elle n'a pas été simplement subordonnée à celle de son conjoint français en France. Alors, à l'origine, j'avais fait cette étude essentiellement pour étudier le rapport de force dans le couple, c'est-à-dire comment justement la femme étrangère pouvait se débrouiller à l'intérieur de son couple pour obtenir la même reconnaissance que son mari, étant donné qu'elle était fragilisée par sa transplantation, par le fait qu'elle était dans un pays qui n'était pas le sien, qu'elle était étrangère et qu'elle était épouse, puisque jusqu'aux années 70, une épouse en France était subordonnée à son mari c'était une véritable relation de domination. Alors, comme pour arriver à un bon niveau de bilinguisme de l'enfant, il fallait que les parents fassent des choix concernant son éducation, concernant la langue parlée à la famille, dans la famille, concernant le pays où il passait ses vacances, etc. Et tous ces choix étaient négociés par le couple des parents, Et il fallait que la femme puisse imposer ses choix également, enfin, pour obtenir que les enfants deviennent bilingues. Donc le bilinguisme révélait une épreuve de force dans le couple, et le résultat final de la recherche était qu'un enfant bilingue dans ces couples franco-américains avait des prénoms, par exemple Passepartout. Donc ça voulait dire que la mère, que la femme américaine avait réussi à imposer un compromis pour que ça soit un prénom qui puisse passer aussi bien dans sa culture que dans celle de son mari, et que l'enfant soit sans religion, puisque là aussi c'était une question de compromis pour que ça ne soit pas toujours la religion du père qui soit imposée, qui soit donnée, transmise à l'enfant. Alors, il est évident que dans toute famille, dans toute situation conjugale, il y a des épreuves de force, il y a des compromis qui sont effectués. Mais dans les familles mixtes, dans les couples mixtes comme ça, ça devient plus facile à observer, puisqu'on peut voir les résultats enfin, des négociations. Et donc les familles mixtes font figure un petit peu de laboratoire sociologique dans lequel on peut observer ce qui se passe dans tout couple. Alors, je voulais juste dire une chose pour terminer. C'est que la mixité a été chargée de beaucoup de négativité. Ça a été chargé de beaucoup de douleurs parce qu'il y a eu à combattre, enfin, pour faire reconnaître, même en France, le droit de se marier. Enfin, je ne sais pas, enfin, je pense que tout le monde est au courant de ces situations de couples où il y a l'étranger qui est obligé de repartir dans son pays pour redemander un visa pour revenir en France afin de se marier. Et c'est extrêmement difficile à obtenir, à la fois le visa pour venir et puis après, il faut se soumettre à des interrogatoires de police pour savoir si on est un vrai couple ou un faux couple, un couple de complaisance. Mais il faut dire aussi que la mixité peut représenter une valeur positive, non seulement. Comme j'ai déjà dit, le terme présuppose un peu un rapport égalitaire, puisque les éléments en présence sont différents mais égaux. Mais personnellement, je trouve que l'expérience de la mixité libère les individus des encombrements que constituent les appartenances. Surtout, enfin, dire que on n'a pas une seule origine, personne n'a une seule origine, et la mixité permet de les reconnaître toutes. On peut dire que c'est une sorte de laïcité personnelle. Ensuite, reconnaître que tout le monde et tous les couples, y compris de même sexe, sont mixtes, c'est enterrer l'illusion de la pureté originelle qui n'a jamais vraiment existé, se débarrasser de cette idée fausse et d'ailleurs aller dans le sens de la réalité de nos sociétés qui sont de plus en plus métisses, en fait, métissées. Et puis finalement, je pense que la mixité n'est pas seulement une forme de famille ou de couple, mais que c'est une propriété qui exprime l'identité composite de tout être humain. Et que la mixité devrait, en fait, il me semble, dans toute étude sociologique, être reconnue comme catégorie transversale, un peu comme on a, après moult luttes, reconnu le genre comme catégorie transversale, la classe sociale également, ou le contexte historique. Enfin, c'est une catégorie, la mixité, qui ne concerne pas seulement ce qu'on appelle les couples mixtes, mais tout le monde, étant donné qu'on a tous des sources multiples, si ce n'est qu'un père et une mère et des histoires complexes.
Merci beaucoup. Sylvie Laurent, on vous a laissé sur un exposé essentiellement historique. Quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce qu'un couple mixte aux États-Unis aujourd'hui est intégré ? Est-ce que le modèle Obama a ouvert des portes ? Est-ce que les fameux quotas dans les films les amènent à ce que la situation soit plus claire ou c'est toujours compliqué ?
Puisque vous parlez des films, je vais peut-être commencer par reprendre là où je vous avais laissé tout à l'heure, c'est-à-dire 1967. 1967, donc l'année de l'arrêt dont je vous ai parlé, Loving versus Virginia, qui rend inconstitutionnelle toute loi interdisant le mariage interracial. C'est cette année-là que paraît sur les écrans un film que sans doute beaucoup d'entre vous ont vu, qui s'appelle Devine qui vient dîner. C'est pas un hasard. La même année, 1967, avec Sidney Poitier, Catherine Hepburn et
Spencer Tracy,
bien sûr. Et que nous raconte ce film ? Ce film nous raconte Sidney Poitier, entre autres choses, premier homme noir à obtenir un Oscar de meilleur acteur aux États-Unis. Ce qui évidemment en dit long. Que nous raconte ce film ? Ce film nous raconte comment aucun d'entre nous n'est raciste. On a tous un ami noir quelque part. On est progressiste, on vote à gauche. Puis un jour, notre fille arrive à la maison et elle nous annonce qu'elle va épouser un noir. Et là, subitement, on est face à notre réalité de gens de gauche, très progressistes, qui aimons beaucoup les noirs, qui ne sont pas du tout racistes, mais quand même, pas ma fille. Et ce film est très très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il pose la question fondamentale de ce qui reste de l'interdit anthropologique fondamental, que je n'ai pas eu le temps de, très brièvement j'y reviens, que je n'ai pas eu le temps d'expliciter tout à l'heure. Ce qui pose problème dans l'idée d'un homme noir qui aime une femme blanche, parce que c'est plus facile dans l'autre sens, c'est l'idée du corps de l'homme noir comme menace absolue dans l'ordre des choses qui serait une forme de domination masculine, blanche, qui serait comme d'une certaine façon remise en cause par l'entrisme, pardon pour, mais en même temps c'est volontiers, la pénétration, si vous voulez, pour être un peu lacanienne, du corps noir dans le corps blanc. Et l'idée selon laquelle le corps des femmes blanches est quelque chose de finalement extrêmement pur, qu'il faut protéger, qu'il faut cadenasser, et que tant que le corps de la femme blanche reste immaculé, alors l'ordre social demeure tel qu'il est. Et donc il y a évidemment une dimension extrêmement sexiste aussi dans cette peur du corps noir. Alors les choses évoluent, je viens à votre question, les choses évoluent dans les représentations avec ce film qui me semble néanmoins clé, qui est « Devine qui vient dîner » et « Qu'est-ce que nous ferions nous si nous étions dans la situation concrète d'avoir à accepter que notre fille blanche épouse un homme noir, de toute évidence dans le film, il s'aime. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Si on demande aux Américains, d'après les sondages les plus récents, ce qu'ils pensent d'une union entre un blanc et une noire, si vous demandez aux plus de 50 ans, ils sont encore la moitié à dire que non, c'est pas une bonne idée, que chacun chez soi et c'est mieux. Alors certains vont dire que c'est parce qu'ils sont fondamentalement racistes et que les Noirs sont un peuple inférieur. Et ça, c'est très rare, les gens qui disent ça. La plupart vont dire que quand même, c'est mieux pour les enfants, parce que de quelle couleur seront les enfants quand même, on ne sait pas. Ou bien diront, c'est mieux pour les Noirs, parce que c'est plus simple pour eux, etc., etc. Alors on se dit, oui, non, mais ça, c'est les plus de 55 ans, ou les plus de 50 ans d'ailleurs. Mais les jeunes aujourd'hui, ils sont post-raciaux. Ils ont élu et réélu Obama, donc... Et en effet, quand on fait des études sur l'opinion, les jeunes gens répondent à près de 80% que pour eux, il n'y a strictement aucun problème à se marier avec quelqu'un d'une autre race, et y compris à se marier, donc pour quelqu'un qui se dit blanc, avec un Africain-Américain. Donc on se dit, c'est formidable. Et puis ensuite, le démographe, il va regarder les chiffres. Et qu'en est-il des mariages de ces jeunes en question ? Et là, on a une petite surprise, c'est-à-dire que ces mêmes gens qui se disent parfaitement ouverts à l'idée d'une union interraciale, eh ben, ils ne se marient pas plus en dehors de leur groupe raciale d'affiliation que leurs parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 6% des mariages seulement qui sont dits interraciaux aux États-Unis. Et que si on regarde parmi les jeunes mariés, c'est-à-dire ceux qui se sont mariés depuis très peu de temps, c'est là aussi moins de 10%, c'est moins que dans les années 70. Et si on affine encore, c'est vrai qu'il y a des gens qui se marient en dehors, qui sont dans une exogamie raciale, notamment près de 60% des Indiens américains, ils sont très marginaux, et puis si on en voit l'extinction, près d'un tiers des Asiatiques américains se marient en dehors, et puis il y a près de 20% des Hispaniques qui se marient en dehors de leur groupe racial. Et puis on arrive à ce que je vous dis depuis le début, c'est-à-dire que bon, c'est très bien tout ça, mais enfin la race fondamentalement, ça parle d'une chose, ça parle des Noirs, et ça parle des Blancs. Et donc on regarde, et là, surprise, moins de 4% des Noirs se marient avec un membre d'un autre groupe. Plusieurs raisons à ça, le poids de l'interdiction, de ce tabou anthropologique absolu, le fait que pour certaines femmes noires, se marier avec un blanc, ça a quelque chose d'une forme de trahison. À l'heure où l'homme noir est surincarcéré, surpénalisé, il y a une volonté aussi, une sorte de réflexe un peu nationaliste chez certaines familles noires américaines et chez certaines femmes noires qui consiste à dire qu'elles préfèrent I'd rather stick with my own race, c'est-à-dire tenir parmi les miens, avec une forme de réaction face à l'oppression extrêmement longue, et puis aussi parce que les blancs se marient entre eux. Et que s'ils sont tout à fait favorables à se marier avec une femme japonaise, avec une femme mexicaine, l'idée de franchir la ligne de couleur reste un interdit anthropologique assez insurmontable, y compris parmi les plus jeunes. Et je vous invite d'ailleurs à regarder sur Internet chez vous, si cette question vous intéresse, il y a une photographe dans le sud des États-Unis qui vient de faire une série de photographies, ça s'appelle Sticks and Stones, des bâtons et des pierres, où elle a pris en photographie les couples mixte aujourd'hui blanc-noir, et en dessous de chaque... Les photos sont toutes libres de droit, vous pouvez toutes les voir en ligne. Et en dessous de chaque photographie, elle a demandé au couple d'écrire la phrase hostile qu'ils avaient entendue le plus souvent. Et ça va de « Mais qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas les blanches ?» jusqu'à « C'est à cause de... » Salope, pardon. Dans votre genre que nos hommes ne nous épousent plus, jusqu'à de quelle couleur va être ton enfant dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a toujours quand même cette idée de ne jamais utiliser l'argument directement raciste, mais de s'interroger sur l'avenir de l'enfant. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé l'année dernière lorsqu'un juge de Louisiane a refusé de marier un couple blanc et noir au prétexte que c'était pour le bien-être de l'enfant à venir. Alors aujourd'hui c'est inconstitutionnel, donc il a été démis du dossier, le couple a pu se marier avec un autre juge, mais la situation aujourd'hui reste quand même celle de gens qui se disent complètement au-delà de la race, dans un âge post-racial, et qui, dans le secret de l'intimité de qui l'on aime, et de qui l'on aime aux yeux de l'État, c'est-à-dire au moment de passer devant le maire ou le pasteur, ont quand même toujours cette petite réticence qui fait qu'il est toujours quand même très difficile lorsqu'on est blanc d'aimer un noir et lorsqu'on est noir d'aimer un blanc ou une blanche.
Gabrielle Varro, j'ai l'impression, mais peut-être elle est fausse, que en France aujourd'hui, si problème il y a, c'est moins entre des couples noir-blanc qu'entre des couples arabes, si je dis blanc, c'est pas juste, mais est-ce que ça vous paraît vrai? Est-ce qu'il y a un poids du coup de l'histoire, peut-être, de la religion qui pèse et qui remplacerait ce poids anthropologique qu'évoquait Sylvie Laurent?
Oui, effectivement, je crois que le contexte aujourd'hui montre que c'est essentiellement les couples avec des Arabes maghrébins ou autres de ces civilisations-là maintenant. Mais c'est pas pour autant que les couples avec les Noirs et Blancs ne sont pas aussi en difficulté. Alors, il y a une étude récente qui s'appelle « Trajectoire et origine », qui a été faite par l'INSEE et l'INED en 2008, je pense. Les résultats sont aussi sur Internet. Et c'est essentiellement, c'était pour savoir l'expérience de la discrimination en France. Et l'expérience de la discrimination en France, maintenant, elle a complètement pulvérisé, disons, les catégories qui étaient admises jusqu'à présent, c'est-à-dire français et étrangers. Et maintenant, on est en plein dans la couleur, dans l'origine. Et effectivement, ce sont les jeunes et les personnes qui ont des expériences négatives avec ce qu'ils attribuent à leur apparence physique, essentiellement. Alors, c'est aussi bien de toutes les origines, mais qui seraient... comment dire ?
Des délits de faciès.
Les délits de faciès, exactement.
Bon, vous évoquiez tout à l'heure à propos du couple Spencer Tracy, Catherine Hepburn dans le film de Kramer, cette bien-pensance de gauche progressiste, un des lieux communs qu'elle véhicule et que le métissage, dans le fond, c'est formidable parce qu'on bénéficie de l'apport des deux cultures. Est-ce que ça vous semble quelquefois vrai ? Et est-ce qu'il y a des sociétés qui ont su comme ça faire du métissage vraiment un avantage et en oublier les inconvénients que vous évoquez l'une comme l'autre ?
Moi, je ne peux parler que de la société que je connais, qui est la société, américaine. Fondamentalement, la question de savoir si on dit que c'est formidable et on est dans une espèce d'image irénique du dépassement des cultures et du dépassement des différences par l'amour, c'est faire peu de cas de la difficulté que ça représente pour les gens qui le décident. C'est-à-dire que, oui, on a tendance à considérer que les enfants métis, par exemple, sont tous beaux, ce qui est aussi un lieu commun. Et en même temps, il y a une difficulté parce que la question de la transmission, c'est aussi la question de la transmission d'un poids du racisme qui est aussi qui est doublement sur le dos des enfants d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'idée d'être un transfuge, c'est aussi l'idée que l'on est d'une certaine façon dans une espèce d'entre-deux entre l'appartenance raciale. C'est-à-dire que dans la société américaine, très profondément marquée par la suprématie blanche et par cette idée qu'être blanc est un privilège qui s'impose à tous, l'enfant métisse, alors qu'on a pu appeler mulatto, octoroon, enfin mixed race, quand on veut ne pas en parler, est un enfant qui peut être dans un conflit de loyauté. C'est-à-dire la question est de savoir, est-ce que avec mes yeux bleus, mon afro et ma peau très très pâle, je suis encore noire ? Oui, selon l'histoire du racisme américain, je le suis. Et en même temps, jusqu'à quel point puis-je parvenir à ce monde blanc qui peut aussi être une forme de trahison par rapport au groupe auquel je m'identifie. Il y a donc toute une littérature aux États-Unis sur qu'est-ce que c'est qu'être noir. Et vous avez peut-être entendu parler de cette histoire extrêmement intéressante d'il y a quelques mois où la représentante d'une section de la NAACP, qui est une organisation de lutte contre le racisme et pour l'amélioration de la condition noire aux États-Unis, a été d'une certaine façon livrée en pâture par ses parents, qui ont révélé aux médias que, contrairement à ce qu'elle disait, elle n'était pas noire, elle était blanche.
Et ces personnages de films aussi, dans Pinky, de Kazan, ou chez Douglas Sirk, qui sont noirs, mais d'apparence blanche. Et
voilà, c'est une longue histoire, mais toute la littérature de Faulkner est marquée par cette angoisse de « et si un noir était caché parmi les blancs qu'on ne voit pas ?» Et on retrouve la logique de l'antisémitisme. Et donc, en l'occurrence, pour revenir à cette histoire de cette femme, elle s'était toujours dite blanche, toujours dite noire, alors qu'elle était de deux parents blancs, mais qu'elle avait grandi avec des frères adoptifs noirs, et que d'une certaine façon, elle s'était appropriée l'identité noire par une espèce de solidarité de destin, d'identification avec la condition noire, au point où la couleur de sa peau ne lui posait pas problème. Et donc il y a toute une sorte de débat sur la difficulté de se définir après tant de siècles où c'est la société qui a imposé sur vous, au-delà de toute vraisemblance scientifique et sociale, une distinction raciale à ce point insurmontable.
En France, est-ce qu'il y a des lieux comme ça où le métissage est une bonne chose reconnue comme telle et considérée ou vécue comme un avantage?
Je pense que dans nos milieux, disons dans les milieux intellectuels, universitaires, de gauche, etc., il y a une sorte de micro-société où on est. Par exemple, on peut prendre les musiciens, les artistes, où souvent, si on les interroge sur des questions identitaires, ils n'ont pas d'autre identité que leur identité de musicien ou d'artiste, et tout le reste est secondaire. C'est une sorte de nouvelle citoyenneté, et toutes les autres appartenances, disons, sont subordonnées à cette appartenance majeure. Je crois que c'est... Donc, que la société est composée de micro-sociétés, enfin de plusieurs sous-sociétés, comme ça, que nous fréquentons, enfin nos fréquentations, dans lesquelles il y a la possibilité de cette valorisation, ou même pas une valorisation, une sorte d'ignorant, enfin, on ignore parce que ça n'a pas d'importance, c'est quelque chose qui est subordonné à ce qui nous est important.
Avant de passer la parole au public, quelles sont les différences majeures pour vous entre les deux sociétés dont vous parlez, l'américaine et la française, quant à ce rapport au métissage?
Je pense que c'est cette profondeur historique différente, c'est-à-dire où elle est fondée sur la couleur aux États-Unis, et elle n'est pas fondée sur la couleur en France, sauf dans les colonies. Mais elle est fondée plus sur cette question de citoyenneté. On est français ou on est étranger, on peut devenir français. Enfin, c'est, à mon avis, la profondeur historique, c'est ce qui est vraiment dans le fond des histoires personnelles. Et si c'est tellement difficile aux États-Unis de dépasser la ligne de couleur... Ça serait pour des raisons historiques, même si on n'en est pas conscient. Et alors, en France, c'est peut-être plus problématique, en France, parce qu'il y a aussi l'influence américaine. Il y a aussi l'américanisation qui rentre même dans ce domaine-là. C'est-à-dire, il y a une sorte de reprise dans nos propres identités, dans les identités de nos jeunes, de cette différence. Je l'ai vu l'autre jour dans une réunion où on discutait d'un livre qui vient de paraître sur les enfants des couples mixtes. Et j'étais assez atterrée parce que bon, le public, c'était un public de jeunes, étudiants et thésards. Et pour eux, ils utilisaient justement la catégorie de race comme si ça allait sans dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas à l'université française il y a une dizaine d'années. Ouais. Maintenant, la race est rentrée en France.
Ouais. Sylvie Laurent, sur cette question de la comparaison.
Entre la France et les États-Unis, ce sont deux expériences radicalement différentes qui n'ont strictement rien à voir. Pour une simple raison qui est que les Noirs et les Blancs aux États-Unis ont dû vivre ensemble sur le même territoire. Le rapport de la France à ces Noirs, c'est un rapport d'exotisme, c'est un rapport de lointain. Il y avait des Noirs aux colonies qui n'ont jamais été ici avec nous et avec lesquels il a fallu négocier le pouvoir. L'histoire américaine, elle est marquée par cette contradiction primordiale fondamentale, c'est-à-dire qu'à l'heure où cette nation s'est créée, où l'idée même de l'Amérique comme idée, a été capturée, par cette phrase mythique de la Déclaration d'indépendance, tous les hommes naissent libres et égaux et dotés de droits inaliénables. Au même moment où l'Amérique proclamait ça et l'écrivait dans le marbre de sa Déclaration d'indépendance, à ce moment-là, il y avait des millions d'esclaves noirs qui, à portée de main, on pouvait les voir du Capitole, étaient en train de suer sang et eau. Et donc, cette contradiction, ça fait 3 siècles que l'Amérique essaye d'en sortir. Comment se fait-il que ce pays qui s'est dit la première grande démocratie moderne soit celle-là même qui était capable de se construire grâce à l'exploitation et à l'asservissement des Noirs et grâce à cet interdit absolu de se mélanger? Voilà. Et quand on est à ce point né d'une contradiction, quand ceux-là même qui ont écrit votre constitution que vous tenez avec la Bible comme le plus grand texte de l'histoire de l'humanité étaient eux-mêmes des propriétaires d'esclaves, comment est-ce que vous faites? C'est une question qui revient encore et encore. Et comme il y a toujours ces mêmes Noirs, ces mêmes descendants d'esclaves, ces mêmes descendants de la ségrégation et ces mêmes contemporains de la discrimination chaque jour que vous rencontrez et qui vous rappellent ce mensonge primordial, vous ne pouvez pas faire autre chose que de continuer à faire face à cette question. Et par ailleurs, comme le racisme est inscrit dans les institutions du pays, de l'école à la loi, à la prison, à la police, etc., on ne peut pas en sortir. Donc c'est très très différent. Peut-être une analogie pourrait-elle être faite avec la question du rapport des Français avec les populations arabo-musulmanes, parce qu'il y a là quelque chose comme une espèce de peur, mais c'est beaucoup plus contingent qu'inscrit dans l'histoire profonde du pays.
Oui, je ne sais pas, je pense qu'il y a quand même une histoire entre la France et l'Algérie, par exemple, qui est assez longue également et qui soutient la comparaison. Oui.
Merci, on va passer à vous. Je suppose que vous avez de nombreuses questions à poser à nos deux invités. Donc, comme d'habitude, des micro-circules, levez le bras haut et fort et on va vous le porter. Mademoiselle, madame, non, plus dire mademoiselle, pardon, madame.
Merci. Tout d'abord, bonjour. Vraiment, merci pour nos deux intervenantes. Vous avez cité, Sylvie Laurent, le film et la fameuse scène avec les parents. Mes parents ont dû vivre cette situation. Donc, le sujet est clairement personnel. En plus, au moment quand ils ont dû le vivre, mon futur mari et moi, on habitait à New York. Mon futur mari, qui est français, qui est 3e génération en France, avec les origines au Cameroun, et moi, qui est russe par rapport à mes origines. Donc, pour revenir à votre dernière question, la différence, c'est plutôt du commentaire de mon côté, la différence, elle est énorme, mais je ne pense pas qu'on peut comparer, parce que c'est vraiment deux expériences très différentes. Aux États-Unis, on a eu les amis et l'entourage qui venaient de tous les milieux, de toutes les origines, et l'annonce de notre mariage, sachant qu'on se fréquentait, on était fiancés, l'annonce de notre mariage a suscité autant de réactions assez vives, voire parfois violentes, de côté noir que de côté blanc. C'était pas le cas en France. Néanmoins, en arrivant en France, on a dû passer par l'expérience assez spécifique, parce que dans toutes les institutions qu'on a vues dans le cadre administratif quelconque, tout le monde se tournait automatiquement vers moi parce que je suis blanche, en disant « Et votre futur époux, il vient d'où ?» Sachant que je parlais pas français à l'époque, c'était assez intéressant comme expérience, croyez-moi. Et c'était partout, vraiment, jusqu'à l'Église catholique, sachant que tous les deux, on voulait se marier à l'église, et on a fini à changer l'église, si je peux me permettre de partager avec vous cette expérience, parce que le prêtre d'église qu'on fréquentait, au moment donné, après tous les chemins possibles de nous dissuader, a quand même sorti une phrase que c'est contre la nature. On est en France, à Paris, 16e, 21e siècle. Dire que c'est plus simple en France, c'est pas vrai. En tout cas, par rapport à mon expérience, dire que c'est pareil, c'est pas vrai non plus, effectivement, c'est très, très différent. Et je pense que le point d'institution, ce qui était aussi mentionné par les deux intervenantes, reste quand même extrêmement important. Le point de cliché aussi, je peux vous dire que c'est assez difficile d'expliquer au papa de mon mari, qui est parmi les premiers étudiants noirs d'INSEAD, pourquoi son fils encore aujourd'hui et demander dans la piscine de nuit combien il prend comme maître nageur pour les cours d'un garçon de 10 ans. Il n'est pas maître nageur, il est venu comme tout le monde se baigner. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même les choses à corriger de deux côtés. Si on peut s'apprendre aussi, enfin apprendre les uns des autres, c'est peut-être juste ça le commentaire, parce qu'il y a des choses qui marchent un peu mieux aux États-Unis grâce aux différents processus, notamment dans le monde du travail, qui étaient mis en place et qui permettent de mieux travailler sur les sujets de racisme, sujets de discrimination tout simplement. Et il y a d'autres choses qui marchent mieux en France et qui permettent peut-être d'avoir plus de mixité, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Je pense que certes, chacun son histoire, mais on est suffisamment intelligent, il me semble. Enfin, j'ose croire qu'on est suffisamment d'intelligence d'apprendre de deux côtés et garder les meilleures choses. Encore une fois, un grand merci.
Merci à vous.
Oui, bonsoir, je vous remercie pour vos interventions. Je voulais simplement faire... Enfin, vous posez la question de... Vous avez parlé un moment du tabou anthropologique, l'interdit anthropologique majeur. Alors, justement, il me semble que ça concerne tous les espaces dans lesquels il y a eu la colonisation et où il y a eu une rencontre blanc-noir. Puisque si aujourd'hui, chez vos étudiants, madame, vous rencontrez des gens qui désormais utilisent des catégories ethniques ou socio-ethniques et non plus étrangers français, c'est que justement, la France elle-même a connu ce problème. Notamment le fait qu'après un processus durant la Révolution française, un processus de reconnaissance du sujet esclave comme citoyen, avec la première abolition de 1794, on a eu après un retour à l'esclavage. Par conséquent, dans l'histoire française elle-même, il y a eu ce problème de race qui s'est posé. Simplement, c'est vrai que les fondements idéologiques de la France, avec la Déclaration des droits de l'homme, c'est pas du tout le cas américain. Peut-être que la Déclaration des droits de l'homme a quelque part permis d'occulter certains problèmes et puis de faire en sorte que le modèle français résiste à l'idée ethnique. Cependant, la France elle-même a connu ce problème, puisqu'il y a eu vraiment un désaveu, notamment de tout ce qui avait été fait pour abolir l'esclavage, pour que les esclaves deviennent des citoyens. On a un très beau tableau de Giraudet qui montre Jean-Baptiste Bellay, qui était un ancien esclave, devenu représentant du peuple français à la Convention, et puis après sous le Directoire. Et puis après, tout ça s'effondre avec Napoléon qui rétablit l'esclavage. Et ce noir qui était un citoyen redevient un sujet et un esclave, jusqu'à la deuxième abolition, bien sûr, de 1848. Par conséquent, je voudrais vous réinterroger sur n'y a-t-il pas finalement une expérience commune, enfin une anthropologie commune entre les Antilles, enfin la France et les États-Unis par rapport à ce rapport noir-blanc?
Oui, effectivement. Mais c'était plus circonscrit dans le domaine... colonial, c'est-à-dire c'était le code noir, par exemple, l'esclavage, enfin, c'était essentiellement dans les colonies, enfin, Guadeloupe, Martinique et la Guyane. La métropole est assez différente et a été, d'une certaine façon, préservée de cette réalité-là. Mais je suis d'accord que ça a été... poussé sous le tapis, enfin c'était recouvert, disons, ces identités et ces réactions et ces antagonismes, enfin, ont été recouverts par l'idéologie républicaine française, mais qui a très bien fonctionné dans certains domaines, comme l'école par exemple, jusqu'à un certain temps, jusqu'à très récemment. Et la tension, elle est là, et maintenant, elle ressurgit. Mais la question, c'est est-ce qu'on a raison de la laisser ressurgir, de la laisser reparaître en disons, en utilisant des termes qui donnent une réalité, par exemple le terme de race, qui donne une réalité qui consolide la séparation, disons, entre les groupes. Est-ce que c'était pas mieux quand on parlait uniquement de Français et d'étrangers? C'est une question que je pose.
Monsieur, qui va en poser une autre.
Merci. J'aurais une question sur une émission assez récente, je crois, sur Arte, où il était fait mention de l'arrivée des GIs américains en France, qui avaient violé des Françaises à l'arrivée à la guerre, et où on portait l'attention en disant jamais un GI blanc, je résume, hein, un GI blanc ne pouvait violer une femme française, ça venait des GIs noirs. Ça, c'est ma première partie de question. Et la deuxième question, est-ce qu'à un moment, aux États-Unis, le phénomène militaire n'aurait pas plu, je veux dire, justement, porter cette réintégration et cette fraternité de mixité? On était en mixité pour la guerre et on ne l'était pas pour la paix. Voilà, c'est deux questions que je voulais poser à l'une et à l'autre des intervenantes que je remercie.
Je vais répondre d'un mot très très vite à monsieur et puis ensuite je passerai à votre question. Oui, bien sûr, la difficulté dans un rapport colonial comme dans tout rapport de domination à aller se commettre avec celui que l'on assujettit est toujours un interdit. Mais la raison pour laquelle je maintiens que c'est fondamentalement différent aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, c'est l'idée de dignité humaine qui est liée à l'idée de citoyenneté. Vous savez, j'imagine que les Antillais étaient français avant les Savoyards. Et que la raison pour laquelle l'esclavage a été rétabli en France, ce n'est pas du tout au nom de considérations raciales, mais de considérations économiques, pragmatiques, voire géopolitiques. La grande période où la France rapatrie quelque chose qui serait de l'ordre de cette stigmatisation, chosification, comme disait Césaire, de l'autre noir, c'est finalement les années 30, la grande période des expositions coloniales, de la représentation du sauvage comme quelqu'un de fondamentalement inassimilable. C'est très différent et c'est très déconnecté de la réalité du rapport de la France aux Antilles, par exemple, puisqu'au même moment, les Antillais étaient citoyens français. Donc il y a quelque chose de complètement bricolé dans la mentalité coloniale française. Aux États-Unis, c'est tout à fait différent, puisque d'emblée, il a fallu partager le pouvoir et définir ce qu'est un Américain sur des soubassements raciaux, et définir la citoyenneté américaine comme étant le privilège de celui qui est libre, par conséquent, le privilège de celui qui est blanc. Et il a fallu remettre ça en cause. Et évidemment, cette question de citoyenneté me mène naturellement à votre question, puisque est citoyen, d'après la définition classique, celui qui peut prendre les armes pour aller défendre sa nation. Les Noirs américains se sont battus dans tous les conflits qui ont fait l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire la guerre d'indépendance contre la couronne britannique, la guerre civile entre le Nord et le Sud, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, etc. etc. Et encore, aujourd'hui, ils sont présents sur tous les théâtres d'opération où se trouve l'armée américaine. Alors pourquoi était-il suffisamment bon pour aller mourir pour le drapeau et pas suffisamment pour rentrer voter? Eh bien, ils ont été les premiers à se poser la question, figurez-vous. Et en particulier, lorsqu'ils sont rentrés de la Première Guerre mondiale, où certains, vous évoquiez les bataillons noirs américains en Europe, et en France en particulier, vous savez qu'on leur doit le jazz, hein, au moment de la Première Guerre mondiale, notamment les Harlem Hellfighters, ce bataillon de noirs de Harlem venu en France qui, pour se changer les idées, grattait un peu la guitare et soufflait dans l'harmonica et qui a fait que le jazz a connu cette période d'expansion remarquable. Ces gens arrivaient sur les côtes françaises où, et c'est là qu'on voit la différence fondamentale, ils étaient accueillis par les familles blanches, non pas comme des noirs, mais comme des Américains. Et ça a été la même chose au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on leur demandait des chewing-gums, on considérait qu'ils étaient des libérateurs, on les embrassait, on les prenait sans... Et ces gens se sont dit, mais ils ont l'air de ne pas voir qu'on est noirs. En fait, les Français voyaient parfaitement qu'ils étaient noirs, mais pour eux, ils n'étaient pas noirs, ils étaient américains, ils étaient là pour les libérer. Et donc, quand ces gens reviennent, ces soldats noirs reviennent aux États-Unis, ils se disent, mais puisqu'on a été capable d'être à l'égal des autres au regard des Français, au regard des Allemands, au regard des Russes, pourquoi est-ce qu'une fois aux États-Unis, le simple fait de porter notre uniforme nous vaut le lynchage? Il y a des cas très très connus de vétérans, donc en anciens combattants, on dit vétérans en américain, noirs, qui, parce qu'ils portaient l'uniforme, étaient considérés comme une provocation par les Blancs et qui ont été lynchés dans le sud des États-Unis parce que simplement ils portaient leur uniforme comme signe de leur citoyenneté, de leur américanité. C'est-à-dire que le degré de résistance à l'idée de citoyenneté noire passait par le fait même que qu'il fût bon, suffisamment bon pour être soldat, était perçu comme une provocation. Et donc, vous savez peut-être qu'il faut attendre la guerre de Corée, c'est-à-dire Eisenhower, en 1953, pour que l'armée américaine soit déségrégée, mais qu'y compris au moment de la guerre du Vietnam, ce sont les Noirs qu'on envoie dans les premiers bataillons à se faire liquider, et que l'idée selon laquelle l'armée pourrait être un lieu d'égalité sociale reste encore à prouver et à démontrer, même s'il y a eu de grands généraux noirs, comme Colin Powell, qui ont pu participer du progrès. Mais il y a une déconnexion totale entre la possibilité de porter l'uniforme et le fait de se voir reconnu la dignité de citoyen, de même que pendant la période de l'esclavage, les femmes noires n'étaient pas reconnues comme dignes d'être des êtres humains libres, mais qu'elles étaient suffisamment bonnes pour nourrir au sein les enfants blancs. Ce qui est là aussi quelque chose qu'on parle de la folie anthropologique, c'est-à-dire que le lait d'une mère noire, d'une nourrice noire, était suffisamment bon pour nourrir un enfant blanc et en faire un bon petit raciste blanc, mais pas suffisamment pour que la femme fût libre et maîtresse de son propre corps.
On va prendre une dernière question, malheureusement, madame, là-haut.
Oui, bonsoir et merci pour votre intervention. Je suis très intéressée par ce que vous dites sur le fait que la France a accueilli avec les bras grands ouverts les soldats, non pas en tant que noirs, mais en tant qu'américains. Mais ce que je trouve...
J'ai simplifié, hein, oui. Pour aller très vite.
Oui, d'accord. Mais c'est un phénomène qui persiste. J'ai eu le privilège de pouvoir naviguer entre les deux, donc entre l'Europe et les États-Unis. Et ce que j'ai toujours trouvé fascinant, c'est que vous avez parlé d'une interdiction anthropologique fondamentale, mais en même temps, on est prêt à faire des excuses ou des pardons à partir du moment où on sait que vous n'êtes pas de chez nous. Et je ne suis pas la seule à avoir fait cette expérience-là. Je pense qu'Angela Davis, elle en parle, comme elle a étudié en France et en Allemagne, elle fait l'expérience de se découvrir acceptable si elle parle français ou allemand. Et donc, du coup, on ne voit plus la couleur de sa peau. On ne la considère pas comme noire de chez nous. Ah, vous n'êtes pas un noir comme chez nous. De la même façon que Maya Angelou, en vivant en France, raconte des épisodes semblables de gens qui la percevaient comme africaine, alors que quand on découvrait, ah non, en fait, c'est une américaine, elle ne vient pas de chez nous. Mais quand même, c'est... Donc, du coup, je me pose la question sur cette interdiction anthropologique. Autre exemple, vous avez parlé de Colin Powell. On aime bien faire la distinction aux États-Unis des Noirs qui viennent de chez nous et des Noirs qui ne viennent pas vraiment de chez nous, c'est-à-dire les gens de descendance, soit des Caraïbes, soit d'Afrique, qui réussissent mieux, par exemple, qui ont tendance à aller mieux. Ils vont dans les grandes facs aux États-Unis, ils deviennent les personnes, ils font partie de l'élite politique locale, municipale, beaucoup plus rapidement que, soi-disant, les homegrown blacks, ceux qui sont nés, qui ont toujours été là depuis 300 ans. Donc je voulais, si vous pouviez parler justement de ces distinctions, de ce côté désirable, ces qualités désirables de celui qui est noir, mais quand même pas noir comme chez nous, ou pas comme nos noirs. Voilà. Merci.
Je vous en prie. Vous auriez pu ajouter James Baldwin à la liste de tous ces Noirs américains qui viennent en France pour découvrir que mieux vaut être un Noir américain qu'un Algérien en France dans les années 60. Oui, tous ces exemples que vous donnez, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par l'idée de la construction de l'idée de race et de cette fiction qui est que l'on croit pouvoir définir la race comme l'apparence physique ou la couleur de la peau, alors qu'en réalité, c'est une construction psychologique qui est plaquée sur l'idée que certains sont plus désirables, plus aimables, plus dignes de mon respect et de ma citoyenneté. Et c'est fondamentalement toujours une question de miroir, de où je me situe par rapport à. Et donc il y a quelque chose en effet qui fait que, par exemple, c'est extrêmement sexy d'être un noir américain en France, et y compris les écrivains récents comme Ta-Nehisi Coates qui vivent à Paris aujourd'hui, ou Jake Lamar qui vivent là depuis très longtemps, disent qu'en effet, dès qu'ils disent qu'ils sont américains, il y a quelque chose qui, s'efface. Mais parce qu'une fois encore, il y a des processus de racialisation qui n'ont rien à voir avec la couleur de la peau. Et on assiste aujourd'hui, par exemple, à une forme de racialisation des musulmans. C'est-à-dire que ça ne se voit pas sur votre tête si vous êtes musulman ou pas. Et pourtant, on est capable d'inférer de l'idée que quelqu'un pratique telle ou telle religion, l'idée qu'il a héritée et qu'il va transmettre à ses enfants un certain nombre de caractéristiques morales et psychologiques qui sont innées, qui sont fondamentalement, irréductiblement quelque chose qui le définissent et dont ils ne peuvent pas sortir. Et c'est fondamentalement la façon dont on se perçoit et on est dans un ordre du discours qui fait que selon que vous serez puissant ou misérable, pour reprendre la fable de La Fontaine, vous serez blanc ou noir. C'est pas selon que vous serez blanc ou noir, c'est selon que vous serez puissant ou misérable, je vous verrai comme blanc ou je vous verrai comme noir. Et il y a cet adage aux États-Unis que vous connaissez sans doute, on disait de Michael Jordan, mais Michael Jordan finalement il est tellement riche, est-ce qu'il est blanc ou est-ce qu'il est noir? Et on répondait il est vert, de la couleur du dollar. Et donc ça vous dit, évidemment, c'est très réducteur, parce que même très très riche, on en demeure bien souvent soumis à une forme de racisme, mais quand même, c'est quand même les pauvres qui sont toujours les plus soumis, qu'il s'agisse du balayeur congolais dans les rues de Paris ou du Pakistanais taxi dans les rues de New York, qui ni l'un ni l'autre ne sont africains-américains, c'est quand même toujours eux qui souffriront les premiers de cette imposition du regard supérieur de celui qui dit « Je suis au-dessus de toi, de quelle race es-tu, toi ?»
Merci beaucoup. Malheureusement...